Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cop Nord. Cette semaine encore, on va faire parler en direct des supporters de Lille et des supporters de Lens en même temps. Et au sommaire ce soir, ils étaient 10 pendant plus d'une heure. Les Lensois se sont finalement inclinés 3-1 contre Paris. L'expulsion d'Abdoul Samed a changé le visage de cette rencontre et coûte cher. Les Sang et Or ont maintenant 9 points de retard sur le PSG, ont probablement fait une croix sur le titre. Obligés de s'imposer pour se faire pardonner après la défaite à Angers, les Lillois ont d'abord encaissé le premier but face à Montpellier avant de renverser la seconde période, avec notamment 3 changements faits par Paulo Fonseca à la mi-temps. Une victoire 2-1 pour des Dogs qui sont désormais bien accrochés à leur 5e place. Et à la fin de la rencontre, eh bien les DVE, un cop lillois, a interpellé les joueurs du LOSC pour leur reprocher de ne pas être venus les saluer la semaine dernière après la défaite en terre angevine. Alors, coup de gueule logique, trop d'exigences ou mauvais timing, quels sont les droits et les devoirs des joueurs envers les supporters? C'est notre débat ce soir. On en parlera avec notamment nos supporters lillois du jour, Erwan Makouangou et Adrien. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bienvenue. Retour d'ailleurs à nous, Derwan, sur ce plateau. Et puis de l'autre côté de la table, Denis Couvelard et Maxime Sidra. Bonsoir messieurs.
Bonsoir. Bonsoir.
Et vous pouvez vous aussi participer évidemment à cette émission grâce notamment aux réseaux sociaux et à Twitter. Le hashtag COPNOR pour participer en direct avec nous à ce débat. On attend vos messages. Mais d'abord, retour sur la défaite de Lens face à Paris. Résumé de la rencontre, tous les buts, à tout de suite avec Nicolas Flon.
Un carton rouge qui a tout changé. À la 18e minute de jeu, Salis Abdoul Samed est exclu après un geste mal maîtrisé sur Hakimi. Lens finira à 10. L'ouverture du score est signée Kylian Mbappé avant que Vitinha ne surprenne Brice Samba d'une frappe lointaine. Le troisième but du PSG, il est pour Lionel Messi juste avant la mi-temps. Une main parisienne viendra offrir un pénalty après Mislav Frankowski. Pénalty transformé. Score final 3-1. Lens abandonne sa 2e place à l'Olympique de Marseille.
Et on regarde rapidement les statistiques de cette rencontre. Une possession plutôt déséquilibrée avec 62% du ballon pour les Parisiens. Et c'est finalement la seule statistique qui n'est vraiment pas équilibrée sur la feuille, puisque 15 tirs à 14 et 7 tirs cadrés de chaque côté finalement. Des Lensois qui ont tout de même tenu tête face aux Parisiens samedi soir au Parc des Princes. Top et flop de cette rencontre. Forcément, je me tourne d'abord vers toi, Denis. Qui est pour toi le meilleur joueur, ton top finalement sur cette défaite?
Je vais dire mon top, je vais mettre quand même Sotoka, puisque même s'il n'a pas fait le match intégralement.
Sotoka, Maxime.
Openda.
Openda, Erwan.
Frankowski.
Frankowski et Adrien.
Openda.
Openda, on a donc deux Openda, un Sotoka et Frankowski pour Erwan. Pourquoi Pourquoi tu as refait ce choix?
Parce que déjà, je pense qu'on était pas mal à être surpris qu'il ne soit pas titularisé d'entrée. Donc bon, évidemment, il est quand même très sollicité puis à différents postes depuis le début de la saison. Mais franchement, il a changé quand même quelque chose au niveau physionomie, au niveau de l'investissement. Donc forcément, Openda fait tout le travail qu'il avait. Bon, il a été quand même présent tout le match. Mais je trouve que Sotoka, il a toujours ce petit supplément d'âme en fait, qu'il apporte, surtout dans une situation où on était à 10 contre 11.
Il y a Lens avec et Lens sans Sotoka pour toi?
Ben, au moins, je pense qu'il tire quand même les autres de par sa dynamique, son dynamisme, sa combativité, et puis il est toujours disponible. Puis c'est vrai qu'à partir du moment où il est rentré, il a apporté, il a donné aussi un peu plus de liberté à Frankowski, et puis du coup à Openda. Je pense que c'est dans ce sens-là, si tu veux, que c'était à la fois, pour moi, c'est représentatif du bon coaching à ce moment-là et du changement un peu tardif peut-être au niveau de l'effectif.
Je vais rester avec toi maintenant pour peut-être ton flop. Je pense qu'on risque d'avoir l'unanimité ce soir.
Bah, je veux dire Abdoul Samed, forcément.
Forcément Abdoul Samed.
Forcément la même chose.
La même chose, Erwan, Adrien. Également. On partage. C'est ce carton rouge qui fait changer le match?
Bah oui, c'est sûr que là, ça change totalement le match, surtout à la 20e minute de jeu. Et on voit que même à 10 contre 11, Lens a su tenir tête à cette équipe du Paris Saint-Germain. J'aurais aimé voir un peu cette équipe de Lens à 11 contre 11 contre le Paris Saint-Germain. Et je pense qu'ils auraient bien pu bien embêter le Paris Saint-Germain.
Mais la meilleure occasion de Lens, elle arrive à 11 contre 10 pour le coup, Frankowski.
Est-ce que c'est pas Paris qui a mis ses 3 buts et ralenti un peu?
C'est à 1-0 ça. C'est l'action, elle est à 1-0. C'est pas à 3-0, c'est l'action à 1-0.
C'est l'action à 1-0, oui, tout à fait.
Mais on a quand même donc vu les Lensois qui, on le disait, on avait vu Openda qui a été salué dans deux de vos tops. Ça fait partie des satisfactions tout de même. On parle de coaching positif avec notamment l'entrée de Sotoka. Le match de Loïs Openda aussi reste assez impressionnant.
Ouais, c'est très très encourageant parce qu'on s'était tous un petit peu inquiétés pendant cette période de disette où il était un peu moins présent et un peu moins dangereux. Là, on sent qu'il est quand même sur cette dynamique. Puis bon, quand on se voit qu'il s'est quand même battu tout seul face à une défense à 3, enfin, même si c'est réadapté avec une défense à 4 au fur et à mesure, bon, c'est vrai qu'il a réussi à être hyper dangereux malgré le fait qu'il soit quand même bien esselé en face, quoi.
Justement, tu parles un peu coaching. Donc effectivement, il y a cette expulsion de d'Abdoul Samed côté lensois. Christophe Galtier, le coach parisien, passe finalement sa défense à 4 pour densifier un petit peu sur son milieu de terrain. Et Francaise a eu un choix à faire à ce moment-là. Il envoie s'échauffer Jean Onana, donc milieu défensif. Et il préfère laisser Thomasson et Fulgini. Donc à ce moment-là, il y a 0-0. Est-ce que pour toi, il aurait dû tout de suite répondre à ce choix tactique de Christophe Galtier de densifier le milieu?
Alors c'est toujours difficile parce que pour l'instant, tous les choix tactiques qu'a fait Francaise tout au long de la saison sont plutôt positifs, à part peut-être aussi la fois où il est repassé à 4 contre Lille. C'est compliqué parce que effectivement, je pense qu'il voulait pas couper la dynamique et garder dans l'esprit certainement que Fulgini et Thomasson, ils avaient aussi la possibilité de créer du liant au milieu de terrain pour pas sombrer. Maintenant, c'est vrai qu'on voit que Thomasson sur le premier but, il a du mal au niveau de l'impact par rapport à Messi. Donc peut-être qu'il aurait pu, je pense que dans sa tête, d'ailleurs il l'a dit dans l'équipe le lendemain, que dans son esprit il pouvait tenir en 5-3-1 au moins jusqu'à la pause pour ensuite revoir un petit peu les cartouches. Donc là effectivement, peut-être que le coaching aurait pu nécessiter de faire venir Jean Onana tout de suite. Maintenant, Fulgini et Thomasson sont quand même super convaincants depuis qu'ils sont arrivés au Mercato, et je pense que dans son esprit il partait du principe que en faisant avec Fofana en 6, il pouvait quand même se permettre de garder ces deux joueurs un peu plus techniques au milieu de terrain.
Alors forcément, ce match était le match pour le titre, on peut le dire comme ça, on en avait un peu parlé la semaine dernière, il y avait 6 points d'écart, il y en a maintenant 9. Est-ce que pour vous, le championnat est d'ores et déjà plié, Paris sera champion?
Oui, là, je pense qu'avec 9 points d'avance sur le Paris Saint-Germain, ça risque d'être compliqué. Maintenant, là, Lens va devoir se focaliser sur la deuxième place. Ils ont un vrai coup à jouer avec Marseille et Monaco qui revient. Mais à mon avis, là, la première place, c'est beaucoup trop loin. Là.
Oui, on voit ces trois équipes, Marseille, Lens et Monaco, qui se tiennent en 3 points. Ça risque d'être effectivement serré, pas forcément le droit à l'erreur. Mais Lens qui a quand même encore son destin en main. Pour toi, Erwan, championnat terminé aussi?
Ouais, Paris va s'envoler vers son titre, surtout qu'ils ont un calendrier plus favorable. Après, pour Lens, c'est jouer la deuxième place, surtout qu'il y a 2 affrontements directs qui se profilent pour eux, à domicile en plus. Donc,
Dire, Lens, ils ont... En confrontation Marseille-Monaco, ils ont gagné les 2 à l'extérieur déjà, donc ils peuvent sans problème gagner chez eux. Mmh. Ils restent quand même sur 4 victoires avant cette défaite samedi. Puis non, ça reste Paris.
Monaco, c'est déjà l'adversaire de ce week-end, donc pas le droit à l'erreur là encore.
Tout à fait, puis en plus Lyon reçoit Marseille, donc peut taper Marseille, et puis on espère bien que Lille gagnera aussi contre Marseille. Donc
effectivement, il y a plein de matchs encore en jeu. Il reste 7 journées avant la fin de ce championnat. Le titre joué, c'est aussi l'avis de Francaise pour cette fin de championnat. Écoutez.
Je pense qu'il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Le titre, il est joué. J'aurais aimé qu'on se rapproche ce soir. Et même en se rapprochant ce soir, je pense que ça aurait été très compliqué d'aller chercher au-dessus. Mais oui, je pense que évidemment que le titre sera pour Paris. Après, ce qui compte, c'est que nous, on continue à faire le meilleur football possible et une belle récompense en fin de saison.
On le disait, donc maintenant, objectif 2e place pour Lens, un objectif qui reste de toute façon envisageable pour les 100 heures.
Oui, tout à fait, parce que même si en début de saison, franchement, c'est un peu au-delà de nos espérances, mais après la saison qu'on a réalisée, les contenus de nos matchs, l'enthousiasme qu'il y a derrière nous, ça serait quand même dommage de ne pas terminer sur le podium, quoi qu'il arrive.
Donc 3e place, pour toi, ça reste une bonne place?
Je préférais quand même 2e, parce que l'avantage du 2e, c'est comment on est qualifié directement, ça nous permet plus facilement de garder nos joueurs, alors que bon, c'est quand même toujours la loterie, le préliminaire. Donc je pense que le podium dans l'absolu sera une belle place, enfin sera vraiment mais bon, je pense qu'effectivement la 2e place, ça doit rester notre objectif, comme vous le disiez tous les 4, on rencontre 2 concurrents directs, c'est à nous aussi de faire le job finalement au Stade Bollard, quoi.
Fin de saison à suspense, en tout cas, on le disait, il reste 7 journées, ça commencera par cette réception de Monaco samedi. On se quitte quelques instants, une très courte page de pub, et ensuite on parle de Lille qui s'est imposé, aussi un débat sur le rôle des joueurs envers les supporters. A tout de suite. On est de retour dans Côte-Nord et maintenant on va parler de la victoire de Lille face à Montpellier, résumé de la rencontre avec Julian Boubnov.
Lille s'est fait peur, mais Lille continue sa marche vers l'Europe. Après avoir encaissé l'ouverture du score de Silla en première période, les Lillois ont longuement buté sur la défense montpelliéraine. Et c'est l'inévitable Jonathan David qui a finalement délivré les Dogs à la 70e minute grâce à son 20e but de la saison. Suivi quelques instants plus tard par Rémi Cabella pour leur donner l'avantage. Score final 2-1, les hommes de Fonseca reprennent leur 5e place devant Rennes.
Et coup d'œil rapide sur les statistiques, n'en déplaise à Jordan Ferry, le milieu montpelliérain. Lille a eu 70% de possession du ballon, a tenté 17 tirs contre 4, en a cadré 7. Là où Montpellier n'a atteint sa cible qu'une seule fois sur le but. Top et flop de cette rencontre, je me tourne d'abord vers vous, Adrien Erwan. Pour vous, qui est le top côté lillois ?
Ismaili.
Cabella.
Fonseca,
d'accord, ça triche un peu.
Cabella,
ok, donc. Duo Cabella qui, pour vous, fait le meilleur match donc, face à son ancienne équipe Montpellier.
Bon, Cabella, j'ai presque envie de dire, c'est l'évidence parce qu'il fait une passe décisive et un but. Et vraiment, toute son activité au milieu de terrain, elle est assez phénoménale. Il n'arrête pas de courir et il provoque. Moi, j'ai bien aimé Ismaili parce qu'on a vu à la mi-temps, quand il est rentré en jeu, son impact. Et j'ai l'impression qu'il a changé le jeu de Lille sur son côté gauche. Et il a une telle qualité technique. Aussi, on voit que c'est un vrai défenseur pour le coup. Et avec son intelligence de jeu, il arrive à totalement changer notre visage.
Mais c'est pas le seul à avoir changé. C'est pour ça que j'ai mis Fonseca. C'est parce que ces trois changements, ils ont payé. Clairement.
Donc il change ses deux latéraux, hein, Diakité, Ismaili, et fait rentrer aussi Zegrova.
Zegrova était hyper important aussi en son entrée. En première période, les deux meilleurs joueurs sont Montpellierains, c'est les deux latéraux, c'est Silla et Sako. Et quand il a fait rentrer Zegrova, Diakité et l'autre côté Ismaili, les deux latéraux ont été obligés de forcément rester sur la ligne, ce qui a laissé la place au milieu de terrain dans l'axe, et ça a vraiment fait une grosse différence, je trouve.
Erwan, content de revoir Ismaili et Bafodé Diakité?
Il m'avait manqué, et même Ismaili, justement, je voulais mettre en top, mais tu m'as devancé. Mais on n'avait plus de défenseur gauche, plus de latéral gauche de métier pendant 2 mois, et là on a vu ce que c'était.
Il y a quand même fait un bon intérim.
Oui, on en parlera dans les flops. Justement.
D'accord, okay. Au moins sur cette rencontre. Cabella, d'ailleurs, Rémi Cabella, on peut l'écouter. Il était forcément fier de son équipe et même de son match à la fin du match. Écoutez.
Le plus important, c'est la réaction de l'équipe, et ça, c'est très très important. Je suis fier de mon équipe dans ce moment-là parce que on sait ce qu'on veut, et ce match était important pour la suite du championnat. Et là, cette victoire va nous faire du bien, et cette mentalité, elle est importante. Faut jamais rien lâcher. Un match, tant qu'il reste une minute, faut le jouer.
Voilà donc pour les tops de cette rencontre. Passons maintenant au flop. On a déjà un teasing d'Erwan, donc je te laisse forcément nous présenter Gudmundsson, ton flop du jour.
Et André Gomes.
Gudmundsson aussi.
Gudmundsson, le doublé.
J'aurais dit Alexandre en première période. Et en deuxième, c'était tellement, je sais pas trop, en deuxième période.
Disons Alexandre, alors restons sur Alexandre.
Il a fait moins de match pour le premier mi-temps.
Comme une partie des Lillois, je pense qu'il y a vraiment, encore une fois, un Lille à deux visages. C'est ce que vous retenez un peu de ce match face à Montpellier?
Oui, comme à tous les matchs de Lille, presque en fait. On a toujours l'impression que tous les matchs de Lille cette saison, c'est une période très bien, une période très mauvaise. Encore une fois, là, c'était pas terrible en première mi-temps, et c'était une autre équipe en deuxième mi-temps. Malheureusement, j'avais envie de dire, on n'arrive pas à mettre ces deux périodes dans le bon sens du terme. Mais
là, il faut quand même souligner l'apport de Fonseca, qui fait quand même trois changements forts, parce que sortir notamment un Jonathan Bamba, qui est un peu un cadre de l'équipe, c'est un choix fort. Là, il est clairement un des hommes du match, Fonseca.
C'est ce que j'ai bien aimé aussi, c'est l'entrée de Joro en fin de match pour sécuriser le score. C'est vrai que Fonseca, on pourrait lui reprocher, par exemple, sur le match comme Lyon, par exemple, on mène 3-1, où on continue d'aller à l'abordage. Et là, on voit que ça l'a touché, parce que maintenant, il faut gagner, il faut aller en Europe. Il a sécurisé notamment à Toulouse par l'entrée de Joro. Là aussi, même si on n'a pas vraiment été inquiété par Montpellier, mais il devient, en plus de nous offrir un jeu agréable, il devient aussi pragmatique.
Mais d'autant qu'il avait deux joueurs qui étaient en train de s'échauffer sur cette fin de rencontre. Il y avait Mohamed Bayo et Lenny Hiro. Il a donc fait le choix de la défense. Le coach lillois a noté aussi cette statistique qu'on n'a pas sortie de ma feuille de stats. 24 centres, dont moins d'un tiers qui ont trouvé preneur. C'est une récurrence cette année. Beaucoup de centres tentés, peu trouvent preneur. Est-ce que pour vous, il manque un vrai neuf, un profil, par exemple d'un Mohamed Bayo qu'on vient de citer? Est-ce que ça manque dans le style de jeu Fonseca?
Oui, en fait, tout simplement, ça s'explique par Jonathan David, en fait, parce qu'il désaxe beaucoup Jonathan David, ce qui fait que, en fait, au milieu, au centre, il n'y a plus personne dans l'axe, forcément. Et donc, quand on centre, ça va être pour un Bamba qui n'est pas non plus très fort de la tête. Zegrova, c'est pareil, c'est pas son point fort. Donc, on a un manque là-dessus. Mohamed Bayo peut effectivement jouer ce rôle-là, il l'a joué de temps en temps. Trop peu à mon avis. On espère que le voir un peu plus les prochains matchs et la saison prochaine peut-être.
Justement, on parlait de renforts que sont Ismaili et Diakité qui reviennent après plusieurs mois de blessures. L'utilisation de Mohamed Bayo peut-être sur cette fin de saison, ça peut être là aussi un peut-être pas un point fort, mais un joker en plus pour Lille qui a quand même besoin d'un peu de rotation.
Bah ça va aussi dépendre de Jonathan David. Parce que pour l'instant, Jonathan David, même si au niveau finition, il a progressé, c'est quand même 20 buts. À l'origine du but de l'égalisation, et dans le système de Fonseca, forcément, il n'y a qu'une place pour deux. Tant que Jonathan David sera dans ses standards, ça va être compliqué.
Pourtant, David, il avait commencé la saison à droite. Et Bayou en neuf, ça, c'est un système qui pourrait te plaire sur la fin de saison. Pour toi, Jonathan David, avec donc ses 20 buts, a gagné sa place de titulaire dans l'axe, c'est indiscutable.
Pour moi, c'est indiscutable.
Indiscutable.
Oui, après, moi, j'aimerais bien le voir un peu désaxé en 9,5 presque. Mmh. Je trouve qu'il sera encore meilleur et il y aurait cette opportunité d'avoir un vrai attaquant de pointe comme Mohamed Bayou. C'est le choix de Fonseca d'avoir des joueurs un peu plus techniques derrière. Pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Tant mieux pour lui.
On peut écouter aussi ce qui s'est dit à la fin de cette rencontre. On va remettre donc le contexte. Lille qui s'impose, on l'a dit, 2-1 après une très bonne deuxième mi-temps. Et c'est donc la place de notre débat du jour. Des Lillois qui sont rattrapés finalement après la défaite face à Angers. Et c'est une défaite qui était vraiment encore dans toutes les têtes, notamment celle des supporters et particulièrement des DVE. Ce qu'ils ont tenu à rappeler aux joueurs au coup de sifflet final. Écoutez.
Vous deviez respecter tous les supporters. Vous deviez respecter l'ensemble des gens dans tout le stade. Pourquoi ? Parce que si vous êtes sous couleur bleue aujourd'hui, c'est grâce à tous les gens qui vont bien à la télé. J'ai pris des abonnements. Et franchement, quand il y a des mecs qui font 500 km pour aller dans Angers, en plein après-midi, se casser dessus pour aller voir une pure sur le terrain, que ça ne respecte pas, ça ne va pas applaudir les mecs, ça je pardonne pas.
Alors on rappelle donc un peu le contexte, hein, leader des DVE, des Dogs d'Iragest, qui reproche aux joueurs de ne pas tous être venus les saluer à la fin, à la défaite face à Angers. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce coup de gueule qui était manifestement pas forcément préparé? Est-ce que pour vous c'était déjà le bon moment pour passer ce coup de gueule?
Pas forcément le meilleur moment pour passer le coup de gueule. Maintenant, je pense que, on le sait, le LOSC, c'est pas non plus un club qui est hyper ouvert. Et malheureusement, c'était peut-être aussi le seul moment pour les supporters d'aller parler avec les joueurs. Donc, d'un point de vue, c'est pas le meilleur moment. Maintenant, sur le fond, moi, je suis plutôt d'accord là-dessus. Donc.
Alors, donc, OK sur le fond, mais pas forcément sur la forme, Erwan ?
Moi, je suis OK sur tout.
Okay.
Quasiment. Enfin, en fait, il a tout résumé. Hein. J'ai fait pas mal de déplacements, justement. J'étais pas à Angers. On a les supporters qui, il y en a certains qui se sacrifient vraiment pour pouvoir aller supporter, qui se déplacent des fois dans des conditions, enfin, qui font des blabla cars pour aller jusqu'à Toulouse, par exemple. On demande rien, on n'est pas des supporters exigeants comme ça peut être à Marseille par exemple, où pour une défaite on casse tout, etc. La seule chose qu'ils demandent, c'est ouais, un peu de reconnaissance, un peu de...
Mais est-ce que là le timing finalement il peut peut-être briser? On a vu certains joueurs très peinés hein, par ce message à la fin de la rencontre.
Bah, faut qu'il entende. C'est après aussi ce qu'il a dit Donatien aussi sur la fin, c'est qu'il croit en l'Europe.
Le leader des DVE, voilà, qui avait pris la parole.
Tout à fait. Il a dit qu'il croit en l'Europe, on croit tous en l'Europe et qu'on allait pousser tous ensemble. Et après, comme tu dis, c'est quand le bon moment, parce que Lucien c'est très fermé. Du coup, pour voir les joueurs en aparté, c'est quasi impossible. Là, c'est une petite piqûre de rappel. Après, les joueurs, faut qu'ils fassent aussi le dos rond. Certes, oui, ça pique un peu après une victoire de se faire un peu remuer, mais je pense aussi, on peut critiquer la forme aussi, mais c'est dans un but constructif, c'est pas pour...
En tout cas, la critique donc, de la forme, c'était par exemple l'avis de Lucas Chevalier, le gardien, l'enfant du club, hein, qui lui, n'hésite pas à prendre la parole, notamment face aux médias, et ça, on l'apprécie. On écoute Lucas Chevalier.
Je pense qu'on aurait pu être peut-être un peu plus en communion. Et que ressasser des fois des choses du passé, ça peut mettre plus de sens tant que d'autres choses. Ils ont été déçus, blessés, nous aussi les premiers, voilà, mais c'est pas contre eux. Et je pense qu'aujourd'hui la meilleure des manières, c'est plutôt de communier et de faire paraître un message positif que des pseudo-tensions qui. Voilà, faut être tous ensemble pour jusqu'à la fin de la saison.
Autre réaction, celle d'un ancien Lillois cette fois, Ludovico Bragna, qui commentait la rencontre pour Amazon Prime Video. Lui, pour lui, ça l'a saoulé, le meneur, il n'est pas dans son rôle à faire la morale sur l'argent qu'il gagne. À Angers, ils en avaient gros sur la patate. Des fois, moi aussi, ça m'est arrivé d'aller directement au vestiaire parce que j'étais énervé. Ils sont pas coutumiers du fait à Lille, alors faire la morale alors que tu viens de renverser le match et que l'ambiance est plutôt à la fête, ça me gave. Est-ce que Là, justement, on parlait de timing. Le message, par exemple, de Bragnac, bah, tiens, Erwan, vu que tu n'es pas forcément d'accord avec ce qui se dit, tu comprends aussi, justement, que les joueurs te disent, bah, attends, ouais, mais j'étais pas dans la bonne disposition, pas envie d'aller parler, pas envie d'aller échanger avec les joueurs. Pour toi, il faut. Les joueurs sont obligés d'aller remercier. C'est une reconnaissance.
Pour moi, ils sont totalement obligés. Enfin, on leur demande pas de. Enfin, ce qui leur a été reproché à Angers, c'est de ne pas être venu. C'est pas de venir s'excuser, de ne pas être venu parler. C'est juste un signe de respect, j'ai envie de dire, envers les joueurs.
Sans les supporters, le foot sans les supporters, c'est pas du football. Donc, c'est un sport populaire, faut pas l'oublier à l'origine. Ce que dit Erwan, c'est vrai. C'est à la fin d'un match, c'est la moindre des choses. Quand tu te déplaces, que tu investis autant d'argent pour aller voir un match, c'est le minimum. C'est pas non plus voilà. Après, on parlait de timing tout à l'heure. Est-ce que c'est le bon ou mauvais timing? C'est quand le bon timing du coup pour voilà. Tu parlais des joueurs peinés. Faut peut-être aussi qu'ils l'entendent aussi. Enfin voilà, c'est pas forcément pour leur faire plaisir le message. Donc
on espère qu'ils auront entendu ce message. On voulait avoir aussi une pensée pour Carlos Baleba, le milieu de terrain lillois qui a eu la douleur de perdre sa maman cette semaine. Donc évidemment, on a une pensée pour lui. On lui présente toutes nos condoléances. On regarde maintenant le classement. Il y a eu du mouvement sur cette Ligue 1 ce week-end. Lens qui descend d'une marche, qui est désormais à 9 points de Paris et une unité derrière Marseille. Lille qui conforte sa 5e place avec toujours 2 points de mieux que Rennes, mais toujours 6 points derrière le 4e Monaco. Alors au programme de ce week-end, réservez votre samedi. À 17h, le LOSC sera au Serre et Lens recevra à Monaco à 21h. Les autres matchs du week-end, il y a Paris qui se déplace à Angers, Marseille qui sera à Lyon et Rennes à Montpellier. Donc il va y avoir du spectacle en haut de tableau. Et le résumé de ce week-end de sport, c'est tout de suite avec Gaël Biche.
En football, Valenciennes a manqué une belle occasion de s'éloigner de la zone rouge à domicile face à Niort, bon dernier de Ligue 2. VA n'a jamais réussi à trouver la faille. L'occasion la plus nette est l'œuvre d'Hugo Bonnet en deuxième période, mais dans les buts, Mathieu Michel a sauvé les siens. 0-0 score final. À cette journée de la fin du championnat, Valenciennes reste 16e, en danger donc avec 3 petits points d'avance sur Laval, premier relégable. En basket, Gravelines Dunkerque enchaîne. Deuxième victoire de suite pour le BCM, tombeur de Paula Cortès samedi soir à Sportica. Une rencontre tranquille pour les Gravelinois, jamais inquiétés. Le BCM menait de 17 points à la mi-temps pour finalement s'imposer 70-58. Un succès dû notamment aux 24 points de l'Américain Johnson, meilleur marqueur du match. À 4 journées de la fin, Gravelines Dunkerque est provisoirement 8e au classement. Pas de miracle en revanche pour Le Portel qui se déplaçait sur le parquet de l'Asvel, champion de France en titre. Le SSM y a pourtant cru après avoir fait jeu égal pendant toute une mi-temps. Mais les Villeurbanais, à la lutte pour le titre encore cette saison, ont ensuite rétabli l'ordre. Nando De Colo, parrain des Portelois, a terminé MVP du match avec 20 points. Défaite 86-68. Les Stélistes sont 13e de Betclicquet. Enfin en volley, Tourcoing a compromis ses chances de qualification pour les demi-finales des play-offs de Ligue 1 en s'inclinant à domicile contre Narbonne. Le match 4 des quarts de finale qui se jouait au Vélodrome couvert de Roubaix devait permettre aux Tourquenois de valider leur ticket pour le dernier carré, eux qui menaient la série 2-1. Le TLM s'est finalement incliné 3-7-2, 15-10 dans la dernière manche. Tourcoing devra donc créer l'exploit dans la salle de Narbonne mercredi soir à l'occasion du match 5 décisif.
Merci Denis, Maxime, Erwan et Adrien. Merci à Théodore Anjon à la réalisation de cette émission. Merci à RMC Sport. Nous on se retrouve lundi prochain pour un nouveau Côte Nord. Et d'ici là, vous pouvez retrouver cette émission sur nos sites internet et sur Spotify. Bonne semaine à tous, salut.